Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Et nous sommes toujours à Montpellier pour vous faire vivre en direct sur Radio Immo et Radio Territoria, la dernière journée du 84e congrès HLM, toujours depuis le stand du gouvernement. Dans cette émission, avec les invités que je vais vous présenter dans un instant, eh bien nous allons évoquer le BRS, le bail réel solidaire, un dispositif qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires à moindre coût, surtout en zone tendue. Grâce à la dissociation foncier bâti, vous achetez le logement et louez le terrain à bas prix à un organisme agréé par l'État. Et pour nous éclairer justement sur le BRS, Mahaman So, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'organisme foncier solidaire de la métropole de Montpellier. Stéphane Charras, bonjour.
Bonjour.
Président du groupe SC Immobilier. Camille Madoir-Rouzeau, bonjour.
Bonjour.
Chef du bureau de l'aménagement opérationnel, direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage pour le ministère du Logement. Et enfin, Gabriel Deruche, bonjour.
Bonjour.
Chargé de mission, outil de l'aménagement, également direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage pour le ministère du Logement. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez interagir directement avec nos invités en laissant tout simplement vos questions. Ils y répondront tout à l'heure avec l'appui d'Hélène Parmentier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Hélène, chargée de mission à la sous-direction territoire et usagers au sein du ministère chargé du logement. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Qui peut y prétendre et quelles démarches peuvent être entreprises pour en bénéficier? Camille Madoir-Rouzeau, est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler les grands principes du bail réel solidaire?
Oui, alors d'abord je m'excuse pour les quelques lieux communs autour du BRS pour les acteurs qui sont autour de moi et qui connaissent le dispositif par cœur. Le BRS est un dispositif qui est inspiré du Community Land Trust qui est né dans les années 70 aux États-Unis et qui reposait en fait sur le principe de la propriété collective de la terre, c'est-à-dire qu'une organisation devenait propriétaire de manière permanente d'une terre et puis finalement organisait sa gestion en fonction des objectifs propres. Donc le BRS, le bail réel solidaire, il est né en France en 2017 en application de la loi Allure et de la loi pour l'égalité des chances économiques. Et comme vous l'avez dit, c'est un dispositif d'accession sociale à la propriété pour des ménages sous plafond de ressources qui deviennent propriétaires d'un logement à prix abordable. Alors, quelle est la différence entre le BRS et les autres dispositifs d'accession sociale? C'est que là, le ménage va devenir propriétaire des murs du logement et non pas du terrain, puisque le terrain va rester la propriété des OFS, des offices fonciers solidaires, qui effectivement, comme vous l'avez dit, sont des offices qui, pour exercer leur activité, doivent bénéficier d'un agrément de l'État, en l'occurrence du préfet de région. Puisque les ménages sont locataires du terrain, ils vont devoir payer à l'OFS une redevance foncière qui peut varier d'une zone à l'autre en fonction du modèle économique de l'opération, etc. Mais en tout cas, que les OFS s'efforcent de contenir. Voilà, et puis c'est un bail qui est conclu entre l'OFS et le ménage pour une durée allant de 18 ans à 99 ans. Voilà à peu près pour les grands principes du BRS.
Alors, Gabriel Deruche, dans le but d'offrir une nouvelle étape dans le parcours résidentiel des ménages, le BRS, est-ce qu'il permet de favoriser l'accession sociale à la propriété?
Alors oui, effectivement, le principe du coup de dissociation entre la propriété foncière et la propriété bâtie permet en fait une neutralisation du coût de la charge foncière pour le ménage, ce qui permet en fait de réduire le prix d'acquisition du logement pour le ménage de 30 à peu près à 50%. Et ce faisant, le dispositif cherche à améliorer l'adéquation entre le prix du logement en BRS et le revenu des ménages. Ce démembrement et cette baisse du prix des logements permet deux choses, soit à des ménages qui n'avaient pas les conditions d'emprunt, disons, suffisantes pour accéder au logement dans le marché libre, d'accéder au logement via cette accession sociale, soit à des ménages d'accéder en fait à des logements dans des zones tendues ou dans des quartiers dans lesquels en fait aujourd'hui l'accès à la propriété est quasiment impossible pour la grande majorité de la population. Peut-être pour rappeler quand même quelques points un peu techniques, l'accès à la propriété en BRS est très proche de l'accès en pleine propriété. Le BRS peut être revendu, transmis par voie de succession. Mais par contre, on cherche à préserver le caractère social des BRS, ce qui fait qu'il y a quand même des différences avec la pleine propriété qui méritent, je pense, d'être rappelé pour introduire cet échange. Le premier est que le ménage est censé occuper son logement en tant que résidence principale, avec une clause de résidence principale, ce qui fait que la location est autorisée, mais elle va forcément être un peu limitée par cette obligation de résidence principale à des locations temporaires ou partielles. La seconde est que les droits réels immobiliers qu'acquiert le ménage en BRS ne sont pas intemporels, contrairement à la pleine propriété, mais ils cessent à la fin du bail. Et enfin, peut-être les deux principales différences. La première est que lorsqu'un ménage revend ou donne son logement par voie de succession, etc., le nouvel acquéreur devra lui aussi respecter les plafonds de ressources de l'acquéreur initial. Et enfin, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le prix des BRS à la revente est également plafonné. C'est-à-dire qu'un ménage qui veut revendre son BRS pourra revendre ce BRS à un prix égal à la valeur initiale, qui pourra être revalorisée sur un indice, ICC, IRL, etc. Et ne pourra jamais déplacer les plafonds qui sont applicables à ce qu'on appelle le PSLA. Et donc voilà. Pour autant, on peut peut-être illustrer par quelques chiffres sur les prix un peu moyens qu'on a observés en 2023. Donc en 2023, le prix moyen en zone A au mètre carré était à peu près de 2500 euros, ce qui donne à peu près pour un T4 200 000 euros. Alors, on n'a pas encore des chiffres moyens en 2024, que les prix ont augmenté. Pour autant, on voit qu'il y a quand même une grande différence encore entre le plafond et les prix pratiqués. Ce qui permet en fait, et c'est là qu'on en arrive vraiment à une double possibilité de parcours résidentiel, qu'un ménage qui a acquis un BRS épargne quand même dans ce logement. Et puisse au moment de sa revente se constituer un apport éventuellement lui pour accéder à un autre bien, par exemple dans le marché libre ou non. Et le BRS, lui, qui reste vendable qu'à un prix plafonné, reste un logement abordable pour un autre ménage.
Ok, bah merci pour toutes ces explications et ce constat. Stéphane Charras, vous êtes le président du groupe SC Immobilier. Est-ce que vous partagez le même constat dans le cadre de vos activités ?
Alors, pour tout vous dire, je peux parler de ce que je connais, donc de ma part, outre l'accompagnement des OFS et des opérateurs dans le cadre d'opérations BRS, la commercialisation, sur les 18 derniers mois, on a fait 123 ventes, ma structure, en bail réel solidaire en région PACA. On se rend compte que peu de gens issus du logement locatif social deviennent propriétaires de BRS. Alors, à mon sens, ça tient à plusieurs choses. La première, c'est que je pense que la plupart que j'ai eu avec qui j'ai échangé, l'accession à la propriété comporte un fantasme de plus-value à la sortie. Donc, à partir du moment où le BRS ne la permet pas, c'est assez rédhibitoire pour eux. D'autre part, ils ont un loyer assez modéré. Quand on a un niveau de loyer aujourd'hui dans le logement social de l'ordre de 400 euros par mois, et que pour se porter acquéreur en BRS, malgré des prix maîtrisés, il faut une charge mensuelle, hein, donc remboursement de crédit plus paiement de la redevance, de l'ordre de 800, 900 ou 1000 euros, même si leurs revenus leur permettent, la majorité de ces personnes ici du logement locatif social préfèrent continuer à consommer et avoir un loyer plutôt modéré plutôt que devenir propriétaire, quand bien même ils ne transmettent rien, en l'occurrence le patrimoine ou l'amortissement de l'argent à leurs enfants. Le deuxième cas, c'est l'évolution des prix également des BRS, qui n'a eu de cesse d'augmenter ces derniers temps. D'ailleurs, aujourd'hui, pour tout vous dire, c'est la cible principale, la majorité, 80% à peu près des acquéreurs en BRS sur les opérations que j'ai commercialisées sont issus du locatif Pinel, dispositif Pinel ou dispositif libre, et qui aujourd'hui, plutôt que jeter 900 ou 1000 euros à la poubelle tous les mois, préfèrent ne mettre à fond perdu que le montant de la redevance qui, sur une commune comme Aix-en-Provence, est un peu plus de 2 euros, et de l'ordre de 150 euros par mois pour un T3. De ce fait, quand on, également comme j'accompagne les opérateurs et les OFS dans le montage, dans la définition des opérations en BRS, outre la décote, qui est certes importante, 30, 40, 50%, l'élément prépondérant dans la bonne commercialisation, c'est une étude locative. Donc on fait des études locatives très poussées, on regarde ce qui se passe dans le logement locatif social, que ce soit du PLS, que ce soit du plus, ce qui se fait aujourd'hui dans les loyers encore restants en Pinel et dans le logement libre, et on essaie de calibrer les opérations au mieux pour permettre à chacun de pouvoir acquérir, mais force est de constater qu'on est plutôt sur des profils de logement Pinel ou logement libre.
Alors, Mahamanso, vous êtes directeur de l'organisme foncier solidaire de la métropole de Montpellier.
Tout à fait.
Vous, quel constat vous faites concrètement ?
Alors, sur la métropole de Montpellier, on a un OFS métropolitain, donc de collectivité, mais qui associe également des bailleurs nationaux ou locaux qui nous ont accompagnés dans le montage de notre OFS, donc, qui sont nos opérateurs par ailleurs. Et avec ces acteurs du territoire, on a mis sur le marché cette année 350 logements BRS, l'équivalent de 24 opérations. On a un objectif là d'engagement de 500 logements sur la fin de l'année. L'idée étant à terme d'arriver à 4000 logements abordables non spéculatifs BRS sur les 10 ans. On a un public qui a été plutôt réceptif au BRS à Montpellier et sa métropole. Pour nous, c'est une belle surprise, on en est très heureux. On a eu effectivement, comme disait Stéphane, quelques réserves, quelques objections sur le caractère non spéculatif du dispositif. Mais on a aujourd'hui des niveaux de prix liés à la tension de l'immobilier sur notre territoire qui sont tels qu'avec un niveau de décote de l'ordre de 50%, on arrive aujourd'hui, grâce au PTZ notamment, à rendre éligibles des ménages qui n'auraient jamais espéré être propriétaires. Donc c'est aussi là que ça se joue, c'est la force de l'accompagnement qui est fait vis-à-vis de ces ménages, c'est effectivement la force aussi de la persuasion quant aux objections qu'ils pourraient avoir sur le dispositif. Alors en ce qui concerne ensuite nos niveaux de prix sur la métropole de Montpellier, on commercialise nos BRS entre 2700 et 3200 euros, dans nos secteurs les plus élevés, ce qui reste quand même très raisonnable me semble-t-il, avec un niveau de redevance à 1,30€ sur toute la métropole. Montant de redevance plutôt raisonnable pour justement ne pas grever les charges de nos ménages. Et en ce qui concerne le parcours résidentiel, on a un constat qui s'établit, que je partage avec Stéphane. On a une majorité effectivement de locataires du parc privé, également à Montpellier, qui deviennent propriétaires en BRS. C'est quelque chose qu'on essaie de corriger puisqu'on fait monter en puissance les bailleurs sociaux sur la maîtrise d'ouvrage et la commercialisation. On espère effectivement arriver à terme à 20-30% de ménages accédant en BRS qui viendraient du parc locatif social. Mais aujourd'hui, on a effectivement à peu près ces proportions-là.
Merci. Gabriel Deruche, au-delà de l'ambition évidemment sociale clairement énoncée dans le BRS, est-il également un dispositif de régulation foncière ?
Alors oui, effectivement, le dispositif BRS a deux vocations, disons. Il peut permettre, il cherche à permettre en fait un portage perpétuel de ces fonciers par l'OFS et donc aussi une sortie de ces logements des possibilités de spéculation immobilière. Il faut rappeler, mais Camille l'a dit en introduction, que la soutenabilité en fait économique du modèle repose sur la redevance. C'est-à-dire que pour récupérer, disons, le coût de cette charge foncière qui n'est pas impactée sur le ménage s'acquitte mensuellement d'une redevance qui est fixée par l'OFS en fonction des caractéristiques économiques de l'opération et surtout en fonction de la charge, justement, le coût de la charge foncière de l'opération. Alors, encore une fois, des chiffres qui ont sûrement évolué, mais je peux vous en donner. Pour une redevance moyenne, par exemple, en zone A, était de 1,37€ le mètre carré en 2023 et à peu près de 86 € le mètre carré en zone B1. Cela étant dit, en fait, le BRS permet deux choses principalement. Il permet donc la maîtrise de ses fonciers, puisque l'OFS, lui, est propriétaire, en pleine propriété de ses fonciers. Et donc, en fait, il garde ses fonciers et il sort, en fait, des autres logiques de spéculation, etc. Donc, c'est un outil de maîtrise vraiment foncière. Et ensuite, c'est aussi un outil donc, d'accession sociale à la propriété sur le temps long, ce qui permet une immobilisation des fonds publics qui y sont investis, parce que les collectivités peuvent y investir, les OFS, le prêt Gaïa, etc. Et en fait, contrairement à d'autres dispositifs, ce logement ne pourra jamais être vendu dans le marché libre. Donc en fait, il constitue un parc qui, une forme de rentabilisation, qui est un grand mot, surtout aujourd'hui, mais de l'investissement public et du financement public dans ces opérations. Et donc, maîtrise foncière, immobilisation des fonds publics. Et puis, on peut aussi aller plus loin, parce qu'en fait, le BRS est riche de pouvoir se mettre en place par différents modèles. Le modèle classique qui est en fait peu utilisé, mais du BRS accession, dans lequel l'organisme foncier solidaire conserve en fait la maîtrise d'ouvrage, donc éventuellement construit, et puis ensuite cède les droits réels immobiliers. Mais il y a un autre modèle qu'on appelle le BRS opérateur, dans lequel l'OFS partage ou délègue la maîtrise d'ouvrage à un opérateur, donc, qui va lui construire, réhabiliter les logements et commercialiser ou faire commercialiser les BRS par un commercialisateur. Et en fait, dans ce modèle de BRS opérateur, il y a une grande possibilité de variété de montage, en passant par un opérateur, même en groupement de commandes, en SCCV, qui permet en fait de mettre autour de la table, en début d'opération, plusieurs acteurs qui vont permettre de réfléchir dès le départ la charge foncière, le taux de charge foncière dans une opération, et donc de réfléchir à comment vraiment, en prix de sortie des logements, faire en sorte que les prix soient vraiment très accessibles, ou à du moins plus accessibles que dans le marché libre. Et c'est en ça qu'au-delà d'être un outil de maîtrise foncière, il peut devenir, dans ces conditions-là, un outil de régulation vraiment foncière.
Alors, Mamanso, est-ce que justement le BRS est aussi pour vous un outil de régulation foncière ?
Alors, je crois qu'on fait le constat partagé que c'est son essence à ce dispositif. Dans sa mise en œuvre, nous, on est très vigilants. Alors, pour deux raisons, parce qu'on a une stratégie de maîtrise foncière de longue date sur le territoire, donc on a une charge foncière de référence pour le BRS. Donc, les opérateurs savent, quand ils viennent nous voir, qu'on n'excédera pas les 330 euros du mètre carré hors taxe. C'est ce qui nous garantit des prix de sortie maîtrisés, et c'est ce qui nous garantit des montants de redevances également maîtrisés. Donc ça, c'est l'outil, on va dire, qu'on a utilisé dès le départ pour que les choses soient encadrées. Et dans le fonctionnement de l'OFS, on a fait en sorte d'avoir avec nous les autres OFS qui étaient susceptibles éventuellement de porter des opérations seules, donc sans bannière métropolitaine, dirons-nous, et donc peut-être de pratiquer une politique différente. Donc aujourd'hui, on a évité ce qui se passe sur certains territoires. On n'a pas de surenchère, on n'a pas de concurrence entre OFS parce qu'on est complémentaires, qu'on travaille ensemble et qu'on travaille en sens dans le sens qui est voulu par les élus du territoire. Donc, voilà.
Ok, merci. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du 84e congrès HLM sur Radio Territoria. Vous avez la possibilité, en écoutant nos invités, de les interpeller en posant directement vos questions. Et tout à l'heure, évidemment, ils y répondront. Camille Madouard-Rouzeau, 10 ans justement après la création du dispositif, quel bilan, tout simplement, on peut faire du déploiement du BRS aujourd'hui? Et puis, quelles sont surtout les perspectives encore de développement?
Alors, chaque année, les offices fonciers solidaires ont l'obligation de transmettre aux préfets de région un bilan d'activité qui sert ensuite à alimenter un rapport d'activité qui est publié par le ministère du Logement. Donc finalement, chaque année, on sait précisément combien de BRS arrivent sur le marché, combien de BRS sont commercialisés et combien de BRS sont livrés. Au 31 décembre 2023, il y avait 2040 BRS qui avaient été livrés sur le territoire national. Alors on peut se dire finalement que c'est un volume relativement modeste par rapport aux ambitions qui étaient les nôtres en 2017, qui était d'avoir 10 000 logements BRS à la fin de l'année 2025. Très clairement, on n'y sera pas l'année prochaine sur cet objectif. Néanmoins, cet écart entre l'objectif initial et la réalité des BRS qui sont livrés sur le marché actuellement, il s'explique et surtout il ne grève pas le développement et l'engouement qu'on peut connaître autour du BRS. Il s'explique parce que la majorité des agréments qui ont été délivrés aux offices fonciers solidaires, je rappelle que les offices fonciers solidaires ont l'obligation d'obtenir un agrément de la part de l'État pour exercer leur activité, eh bien la majorité de ces agréments a été délivrée dans les années 2020, 2021, 2022. Or, on sait pertinemment qu'entre le moment où on délivre l'agrément à un OFS et le moment où le BRS est livré, il y a un certain nombre d'années qui s'écoulent. Donc on peut légitimement espérer qu'à partir du moment où on a délivré ces agréments en 2020, 2021, 2022, que sur le marché devrait arriver un nombre significatif de BRS dans les années 2025, 2026, 2027 et au-delà. Et puis par ailleurs, je précise aussi qu'au 31 décembre 2022, on avait 1000 logements BRS. Ça veut dire qu'entre 2022 et 2023, on a multiplié par 2 le nombre de BRS sur le marché immobilier. Donc on pourrait, si on suit la même logique, on pourrait attendre, et on fera le bilan, on est en train d'étudier ce qui nous a été remonté cet été par les OFS dans le cadre de leur bilan d'activité, on pourrait attendre légitimement à la fin de l'année 2024 avoir 4000 BRS sur le marché, et pourquoi pas 8000 l'année suivante, etc., etc. Et puis par ailleurs, dans les perspectives qui sont annoncées par les offices fonciers solidaires, on sait que leurs objectifs sont assez ambitieux et on a pu le constater avec Gabriel quand on s'est promené dans les allées du congrès USH cette année. Il y a vraiment un engouement autour du BRS qui nous fait dire que vraisemblablement, on devrait sensiblement augmenter le nombre de BRS sur le marché dans les années qui arrivent.
Donc accroître le parc de logements, renforcer aussi peut-être le suivi aussi du dispositif, ça fait partie aussi des prérogatives?
Oui, alors c'est vrai qu'on échange très régulièrement dans le cadre du réseau qu'on a mis en place avec nos collègues des services déconcentrés des DREAL, puisque ce sont elles qui accompagnent le préfet de région pour délivrer les agréments d'OFS. Donc elles nous remontent les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les OFS. C'est à nous, ministère du Logement, éventuellement de faire évoluer les textes pour répondre au mieux à la demande des OFS qui travaillent sur le terrain pour pour développer les BRS. Donc oui, on est très à l'écoute et on est là en tout cas pour accompagner les acteurs de ce domaine et pour favoriser le développement des BRS.
Alors Mamanso et Stéphane Charras, au regard de vos nombreuses interactions avec les acteurs qui sont concernés, est-ce que vous partagez ces perspectives? Ce développement doit-il également s'accompagner de garde-fous pour éviter justement une espèce de forme de dévoiement?
Alors, je dirais très clairement oui. Aujourd'hui, je me permets de tirer un signal d'alarme. Je dirais même un gros signal d'alarme. Lors d'une intervention à la DREALPACA, il y a 3 ans, je disais que 70, c'était un état de fait, les 70% des opérations en BRS ou 80 étaient portées en maîtrise d'ouvrage par des OFS bailleurs. Vu les développements qu'il y avait, je disais que la tendance serait inversée avec 80% d'opérateurs privés qui seraient maîtres d'ouvrage sur le BRS, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la dérive sur les prix des droits réels, la pression qui est mise sur les OFS dans un deal, j'ai du logement social, j'ai du BRS, si tu veux le logement social, le BRS doit se vendre tel prix. Et ça nous éloigne de plus en plus de la cible initiale de notre acquéreur. Le législateur a voulu, au 1er janvier 2024, aussi faire exploser les plafonds de ressources des acquéreurs en BRS, avec la volonté de rendre accessible le BRS à plus de Français. Pour ma part, je pense que le seul effet, qui est un effet négatif de cette hausse de plafond, c'est que ça a incité, bien entendu, les opérateurs privés aujourd'hui, qui trustent 80% des opérations en maîtrise d'ouvrage, de dire le plafond de ressources est plus élevé, donc on va vendre plus cher. Heureusement, je dirais, au mois de mars, il y a eu un rappel à l'ordre à tous les acteurs avec le SIEG, le Service d'intérêt économique général, qui veut que le bailleur, bien entendu, vende à des accédants en dessous du plafond de ressources qui aujourd'hui est légiféré au 1er janvier 2024 et qui est même inférieur à celui de 2023. Donc c'est venu un petit peu réguler ces éléments-là. Et cette inquiétude, elle se porte d'abord pour la responsabilité de l'OFS, des OFS comme l'OFS de la métropole Montpellier, Mahaman, qui prennent des engagements forts et d'un accompagnement avec les acquéreurs de rachat dans leur parcours de logement. Et aujourd'hui, on se rend compte que la revente va être un vrai sujet. Et si le prix de base est déjà élevé avec cette hausse qui est pratiquée, pour un acquéreur qui n'aurait pas le droit au PTZ, même si, Madame la Ministre, je pense, a bien entendu les voix de tout le monde que le PTZ devrait être ad vitam aeternam pour un dispositif comme celui-là, mais s'il n'avait pas de PTZ, et comme il a des frais de notaire entre 8 et 9%, la revente des BRS avec un prix initial élevé va devenir très difficile et cette charge va se reposer sur les OFS. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il y a une responsabilité des OFS de faire, excusez-moi l'expression, front. Hein, j'ai fait 20 ans de promotion privée, donc je ne crache pas dans la soupe. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ce dispositif doit rester maîtrisé dans les mains de l'opérateur responsable public, HLM, commune, pour ne pas être dévoyé de sa destination initiale. Et c'est ce qu'on voit déjà en très peu de temps.
Mamanso, rapidement, ce développement du BRS doit-il s'accompagner de garde-fous ?
Alors, totalement, parce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la pérennité de notre modèle, clairement, et c'est arriver à préserver sa vocation sociale. Nous, effectivement, on milite pour la mise en place de garde-fous. On l'a redit hier au cours d'une conférence qui a été animée sur notre stand en présence de notre président de fédération, pardon, et d'un certain nombre d'acteurs. Donc oui, qu'il y ait des garde-fous, c'est plus que nécessaire. Donc on est sur un territoire où on est très régulateur. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. Donc on a une délibération de notre métropole qui encadre les prix d'accession, d'entrée dans le dispositif, les prix de sortie également. Et c'est une délibération qui s'impose à tous les acteurs, OFS comme opérateur. C'est précieux parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de tenir. Donc je souscris effectivement à ce que dit Stéphane. On est sur une séquence où on a des choses en mouvement, mais attention effectivement à ne pas dévoyer le dispositif de son objectif.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de vous remercier, vous ici, l'idée c'est de répondre bien évidemment aux questions des auditeurs. Et là, je me tourne vers Hélène. Y a-t-il des questions justement ?
Oui, Jean-Baptiste, nos auditeurs se posent des questions tout d'abord très, très pratiques. Déjà, est-ce qu'il existe un outil permettant aux ménages intéressés de se renseigner sur le BRS et sur les offres disponibles ?
Alors, je remercie l'auditeur pour cette question qui me permet de faire de la publicité pour effectivement un simulateur mis en place par le ministère du Logement qui s'appelle Boris, comme le prénom, qui permet effectivement de vérifier, sur la base d'éléments que vous rentrez, de vérifier si vous êtes éligible en fait à l'achat d'un logement en BRS. On a mis en place la phase 1 de Boris, encore une fois, qui est un simulateur d'éligibilité. L'objectif cette année et l'année prochaine, c'est de mettre en place la phase 2 de Boris et de permettre en fait d'afficher sur le site internet de Boris les logements en BRS qui seraient mis à la vente. Mais par ailleurs, au-delà de Boris, qui est un outil du ministère du Logement, moi j'invite les ménages qui ont un projet d'achat en BRS à aller directement sur les sites des OFS, qui souvent affichent effectivement les BRS qui sont en vente. Je me suis permise d'aller sur le site de l'OFS de Montpellier Métropole hier, et effectivement, vous pouvez retrouver assez facilement les BRS mises en vente sur Montpellier et sur les communes environnantes.
Autre question ?
Alors, je continue sur des questions très pratiques aussi. Que se passe-t-il en cas de divorce ou de décès ? Et on a une autre question aussi sur qui paye les charges et les travaux de copropriété.
De répondre.
Stéphane, je te propose de répondre.
Alors, le principe, c'est que l'occupant, le propriétaire du BRS doit être l'occupant. Donc, effectivement, ça pose pas mal d'interrogations en termes de succession, avec encore des petites différences d'interprétation notariale, justement, entre les différentes écoles. Je crois qu'aujourd'hui, l'acquéreur BRS a un objectif qui est un peu hybride avec cela. Il est conscient qu'il peut y avoir une difficulté dans la succession ou dans le divorce, parce qu'à ce moment-là, il va falloir qu'il y ait une attribution en pleine propriété aux survivants, ou que la personne, dans le cadre d'un partage d'un divorce, on va revoir ses revenus. Mais c'est pas un frein du tout à la commercialisation. En fait, la problématique d'un acquéreur BRS, c'est se dire aujourd'hui jette un loyer plein à la poubelle. Au demain, même si je ne peux pas transmettre à mes enfants, même si je ne peux pas dans le cadre d'une séparation partager comme je veux ou rester dans le logement, je vais au moins récupérer ce que j'ai amorti de mon emprunt. Et ça, c'est important, parce que on ne raisonne pas uniquement sur de la pierre, on ne raisonne pas que sur un bien immobilier à transmettre, on transmet aussi à ses enfants, s'ils sont multiples. Imaginez un couple décède en même temps avec des enfants majeurs, ils ont 3 enfants et qui ont des revenus élevés, bien entendu, ils ne vont pas tous habiter ensemble dans le BRS, ils seront au-dessus des plafonds, ce n'est pas possible. Donc, ils vont au moins récupérer ce qu'auront amorti leurs parents. Donc, on ne transmet pas forcément un bien, mais ça, les gens l'ont compris. Ils ont compris que finalement, entre leur statut de locataire qui leur permet de rien transmettre du tout aux enfants et un statut d'acquéreur en BRS, de propriétaire de BRS qui finalement va ne leur permettra pas de transmettre le logement, mais au moins la valeur de ce qu'ils auront épargné, de ce qu'ils auront remboursé.
Une dernière petite question, Hélène.
Donc, comment coexistent le bail réel solidaire et le logement locatif social ?
Alors, pour être sûr d'avoir bien compris la question, est-ce qu'il s'agit de programmation mixte, donc à l'échelle d'un même projet, avoir à la fois du BRS et du locatif social ?
Tout à fait.
C'est ça ?
Oui.
Alors, écoutez, donc nous aujourd'hui, on pratique des projets mixtes, on en veut, parce qu'on considère que la mixité sociale, c'est aussi ça. Donc on n'a pas de difficultés majeures à ce niveau. On a des opérateurs sociaux qui ont eu l'habitude de commercialiser des PSLA, jusque-là sans grande difficulté. Donc on ne considère pas que ce soit un frein à l'attractivité des projets, mais aussi parce qu'on a de belles adresses résidentielles. Donc il peut y avoir des objections, on les connaît, on sait pouvoir les lever. Voilà.
Et puis une autre question, vous voulez peut-être réagir ?
Oui, non, c'est sur la même question, peut-être de manière, encore une fois, un peu technique. En fait, initialement, les OFS pouvaient seulement être des structures à but non lucratif. Depuis plusieurs années maintenant, les organismes de logement social peuvent être agréés OFS. Et donc, en fait, il y avait, si vous voulez, ce qui était lié à la non lucrativité, une obligation si bénéfice ou excédent par une opération en BRS, d'utiliser ces excédents seulement pour maintenir ou développer le parc de BRS de l'OFS. Et en fait, avec donc la grande majorité aujourd'hui des OFS qui sont des organismes de logement social, on a donc assez récemment un décret qui a été publié au début de l'été, permis en fait que ces éventuels excédents d'opérations en BRS puissent, pour ces organismes de logement social agréés OFS, être utilisés pour le maintien et le développement du logement locatif social. Donc en fait, c'est une forme de fongibilité des excédents qui va permettre, on l'espère, au BRS, si excédent il y a, d'être une forme de financement possible éventuellement pour un organisme de logement social, pour ces produits qui vont être plus sociaux, comme on peut le dire, de plus ou de PLAI. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit élément.
Et bien comme ça, c'est parfaitement complet. Un grand merci à toutes et tous d'être venus sur ce plateau. Un grand merci évidemment aux équipes du ministère qui nous ont accueillis pour l'accueil, pour la bienveillance. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, est à retrouver en replay sur le site Radio Territoria, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et toujours depuis ce même stand avec l'ANCOLS, l'Agence nationale de contrôle du logement social, eh bien nous ferons un panorama tout à l'heure du logement social en 2024. Il y a beaucoup de choses à dire. Rendez-vous tout à l'heure à 13h. Merci beaucoup Hélène, encore une fois. Et puis, belle journée à vous et à très vite. Salut. Merci.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.